I am your father.
On ne laisse pas Bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes de retour sur Radio RKS, c'est un nouvel épisode de Ciné 7, je suis toujours là et on est toujours là, surtout tout comme tous les dimanches soirs à 19h, et je disais je parce que je suis toujours accompagné de Marvin et Jade, bonsoir.
Bonjour tout le monde.
Salut.
J'espère que vous allez bien ce soir.
Ça va.
Très bien.
Très bien, et bah c'est parfait, parce que ce soir on est trois, mais en fait non, nous sommes quatre, et nous retrouvons une quelqu'un que vous connaissez, parce qu'elle est venue sur l'épisode de l'anniversaire de Jade, c'est Marjorie. Marjorie, bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas, Marjorie, ce soir ?
Ça va très bien et merci pour la nouvelle invitation.
Eh bien, c'est un plaisir de te retrouver. Nous espérons, ici tout le monde va bien, donc nous espérons que chez vous et dans votre voiture, vous allez bien aussi. Nous sommes encore là pour vous accompagner dans ces temps un peu compliqués. Et on n'oublie pas, on fait attention, même si on ne va pas rabâcher ça, nous ne sommes pas le ministère et ni le gouvernement. Mais on est là pour vous accompagner, pour faire passer ces moments un peu compliqués, pour les faire passer un peu plus simplement pendant une heure. Et comme nous sommes tous enfermés chez nous et que nous ne pouvons pas trop voyager, aujourd'hui nous allons voyager. Et pour quelle raison, Marjorie, s'il te plaît ?
Alors on est sur une émission italienne, voilà, pour se laisser un peu porter par la Dolce Vita vu les temps compliqués.
Exactement, ce soir nous allons partir de l'autre côté des Alpes, aller un petit peu visiter, un petit peu voyager. Et nous allons tout de suite commencer par la première musique. Alors, comment tu nous le dis en italien, Marjorie, s'il te plaît ? Bonjour princesse.
Buongiorno principessa.
Et ben voilà, c'est parfait, c'est la première musique de cette émission. On se retrouve sur RKS.
Thank you.
Alors, comme l'a très bien dit Marjorie en italien, je ne le referai pas, mais ce thème s'appelle « Bonjour, princesse ». C'est une phrase qui revient souvent dans le premier film dont on va parler aujourd'hui et qui n'est autre que « La vie est belle » de Roberto Benigni. C'est un film que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup parmi les films de ce soir. C'est un film encore de guerre, donc je vais encore me coller les films d'histoire, mais c'est pas grave. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi un film de guerre ? Parce que pour moi, c'est un film qui se déroule en deux parties. Il y a la première partie où on va suivre l'histoire de Guido qui arrive en ville, lui qui a toujours vécu à la campagne. Et il va rencontrer sa femme. Et ensuite, donc, il y a plusieurs histoires. Il va être très burlesque, cette première partie de film. Et la deuxième partie, c'est Guido, son fils, sa femme et son oncle qui vont être un peu moins burlesques puisqu'ils vont être déportés dans les camps de concentration. Et en fait, toute la force de ce film, c'est que Guido va faire croire à son fils, donc Josué, que tout ça n'est qu'un jeu, un jeu concours, et que pour lui cacher l'horreur de la vérité et l'horreur de la guerre, et pour que cet enfant reste dans son innocence d'enfant, d'une enfance d'une dizaine d'années à peu près. Donc voilà, pour moi, c'est un film qui est très très beau et très très puissant.
Oui, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je n'avais jamais vu. Donc je l'ai vu pour la première fois à 22 ans, et je pense que c'est pas plus mal, Marjorie va nous en parler après, parce que il y a de l'utilité à le voir jeune pour comprendre un peu les horreurs de la guerre et pour être sensibilisé assez tôt. Après, je pense qu'il y a énormément de choses dans le film qui sont sous-entendues et qu'on comprend quand en fait on a une connaissance de l'histoire et qui participe à rendre l'histoire aussi riche. Et personnellement, je suis assez contente d'avoir attendu, d'avoir la maturité nécessaire, parce que ça reste un sujet très compliqué, très difficile, même si pour moi, c'est un film qu'il est indispensable de voir. C'est un film d'utilité publique, et un peu comme la liste de Schindler dont on parlait il y a quelques émissions. Et voilà, c'est un très beau film. On parlera plus en détail des acteurs, du jeu d'acteurs, tout ça, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut un peu débattre. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un très beau film et un film nécessaire.
Moi, si je peux rebondir juste sur le résumé de Kéliane, ce qui est important aussi, c'est que du coup, dire que Guido, il va en gros faire croire à... Comment il s'appelle son fils ?
Josué.
Qu'en fait, il faut qu'il gagne 1000 points. 1000 points avec en fait différentes on va dire tâches, différents jeux dans le camp de concentration, et à partir de ces 1000 points ils auront un char d'assaut, donc c'est ce qui va motiver du coup l'enfant, parce que si juste on précise que il lui fait croire que c'est un jeu, on comprend pas vraiment, parce qu'un enfant forcément un enfant ça a une âme de gagnant, et quand on lui propose un jeu, il veut gagner. Typiquement, il veut toujours être le premier, donc lui, ça va du coup le motiver, on va dire, d'une part à se dépasser pour avoir ce char, et en même temps, du coup, ça va pour le père, on va dire un peu amoindrir la situation, l'horreur des camps de concentration. La vie est belle, moi, c'est un film que j'ai pas forcément, on va dire, apprécié, pour entrer un peu plus après dans le vif du sujet, notamment en fait, à cause de l'acteur, en fait, donc Roberto Benigni qui fait réalisateur et acteur dans ce film. En fait, du coup, 98, c'est la sortie du film. Et la même année, du coup, on a eu l'excellent American History X avec Edward Norton. Et malheureusement, en fait, on va dire, la prestation de Roberto Benigni, elle peut être effaçable dans le sens où, pour moi, ça peut être n'importe quel clown de n'importe quel cirque qui pourrait faire son rôle-là. Donc forcément, dit comme ça, ça peut être un peu dur. Mais en fait... On va dire la première partie du film, elle est assez énervante pour moi. Je trouve qu'il y a des comédies, enfin il y a des moments qui sont un peu burlesques. Enfin burlesque, comment
ouais, si. Bah, burlesque. Pour moi, ouais, je trouve que c'est burlesque. Quand même.
Un peu burlesque dans ce sens-là, ou un peu trop nuancé. Enfin, on dirait pas que c'est la vraie vie, quoi. Enfin, le type, il peut pas être aussi sympa tout le temps, quoi. C'est pas possible.
Bah, c'est ça qui fait la patte Benigni, quand même. Enfin, on le connaît un peu pour ses comédies, et c'est ça aussi la force du film, c'est de faire passer des messages en subtilité, parce qu'on sait que c'est une période très noire de l'histoire. Et justement, la beauté de ce film, c'est de dédramatiser, de nous tirer le rire avant de nous tirer les larmes. Et ça nous fait comprendre doucement ce qu'il y a à comprendre sur cette époque.
Moi, je trouve pas que c'est en subtilité. Je trouve qu'il met les deux pieds dans le plat, quoi. Sur niveau humour, des fois, ça arrive comme ça et tu t'y attends pas, quoi.
Enfin... Je te donnerai quelques films à regarder sur la Seconde Guerre mondiale, du coup.
Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux dans un sens où... au début, c'est un peu compliqué de passer outre le visage en fait de Roberto Benigni, parce qu'il a des mimiques, il a des manérismes qui sont très très forts, quoi. Après, personnellement, j'ai toujours trouvé que les personnes qui appartenaient plus au registre comique se révélaient vraiment dans le tragique. Et souvent, les personnes qui ont plus l'habitude de prendre des rôles un peu légers, comme ça, de faire rire tout le monde, c'est vraiment dans les films tristes qu'ils nous surprennent, en fait, qu'ils vont hors de leur zone de confort et qu'on a souvent de très belles performances.
Ouais, moi, c'est vrai, là-dessus, t'as raison. Par exemple, le film La Rafle, le film français, qui est parmi, pour moi, un des plus beaux films sur la Seconde Guerre mondiale aussi, où dedans, il y a, si je ne me trompe pas, Gad Elmaleh. Et pour des raisons personnelles que j'aime pas du tout, mais dans ce film-là, il joue très bien. Et effectivement, il s'est bien révélé dans ce film-là. Donc oui, c'est vrai. Mais par contre, pour revenir un peu sur Marvin, exactement, t'as raison. Pour moi, Benigni, il ressemble beaucoup à Louis de Funès, un peu dans sa manière de jouer. C'est des mimiques, c'est très, enfin, c'est des gestes très grands, très amples. Et la première partie du film, en fait, elle est assez surprenante quand on connaît la deuxième partie. Enfin, pour moi, on a l'impression qu'il y a deux films différents, vraiment. Et la première partie, on a l'impression que enfin, ça n'a rien à voir à l'histoire et ça apporte pas grand-chose. Et effectivement, toute cette partie burlesque, qui est pour moi très appréciable, je trouve n'apporte pas spécialement grand-chose pour le reste du film. Enfin, dans un premier visionnage, en fait. Après, en le revoyant, oui, effectivement, ça apporte quelques touches d'émotion ensuite qu'il va pouvoir jouer dans le camp. Mais effectivement, il y a vraiment deux parties différentes. Et il y a la partie vraiment burlesque, un peu à la Chaplin, où il tombe toutes les 15 secondes en faisant le serveur de café. Et la partie vraiment tire l'arme sur le camp et très humaine, où il va faire croire à ce jeu et vouloir garder l'innocence de son fils.
Moi, je prendrais presque le problème entre guillemets à l'envers, plus que de dire que les petites touches d'humour suivent dans le film et qu'on les retrouve périodiquement, ce qui est vrai. J'aurais plus tendance à voir l'inverse, le fait que progressivement, même si le personnage de Guido du coup est très euphorique, très joyeux, toujours dans la démesure, on voit vraiment subtilement des petits indices apparaître qui montrent que la guerre est en train de s'installer. Mmh. Par exemple, le cheval qui est peint en disant cheval juif. Et moi, c'est ces petites touches-là que j'ai trouvées intéressantes. Le fait que lui, il fait le clown, il fait un peu sa vie. Mais quand même, on est rappelé à la réalité par des petites piqûres qui nous font bien comprendre que là, il y a quelque chose qui est en train de s'installer.
Moi, je trouve quand même que, par contre, la deuxième partie, comme tu disais, Kéliane, elle arrive assez brusquement. Dans le sens où, du coup, bah, là, t'as la première partie où il y a la rencontre avec sa femme, Dora. Mm-hmm. Et d'un coup, il y a une ellipse où bah, on a compris qu'ils ont eu un enfant et qu'il s'est passé 6 ans, exactement. Je crois que c'est l'âge du fils. Bah, ça arrive un peu vite, quoi. Au final, on ne sait pas comment ils se sont installés. Enfin, des petites choses comme ça. En fait, moi, je trouve qu'on reste trop longtemps sur la partie rencontre avec sa femme, qui peut être assez, on va dire, pas oubliable, mais on va dire, c'est pas ça qu'on retient plus de La Vie est belle. Quand on parle de La Vie est belle, on parle plus. Enfin, on revient plus facilement sur les camps de concentration que sur sa rencontre avec sa femme. Et pourtant, ça occupe quand même une heure du film. Donc, 50-50. Quoi. Mmh. Donc, je trouve qu'elle arrive assez brusquement, quoi, cette partie.
Effectivement, tu as raison de parler de l'ellipse. Pour moi, je trouve ce qui est bien fait par rapport à cette ellipse-là, c'est que très vite, quand on comprend qu'ils sont installés, qu'il a réussi à avoir sa librairie, ce qu'il voulait faire au départ et tout ça, et qu'il a un enfant, en fait, ça leur... Une fois que l'ellipse est passée, ça leur tombe très vite dessus le fait qu'ils doivent prendre le train et partir sur le camp. Et là-dessus, ça sert vraiment le film dans la mesure où, bah, pour 95% des gens qui sont partis, ça leur est arrivé comme ça. Ça leur est tombé comme un cheveu sur la soupe. Et du jour au lendemain, on leur a dit, bah, vous avez 5 minutes pour sortir et pour monter dans le train et vous savez pas où vous allez, mais voilà. Et là-dessus, je pense que cette brutalité, effectivement, peut surprendre le spectateur au départ, et en fait sert dans cette mesure là à montrer vraiment la brutalité avec laquelle ils ont été embarqués. Et parce que si ça avait pris 15 plombes et que on se dit bon bah en fait ils étaient pas si méchants que ça, ils leur ont laissé faire les machins, et en fait non, ils ont été vraiment déracinés. Et en fait, nous, en regardant ce film là on a l'impression d'être déracinés avec cette énorme ellipse.
Ça tient aussi, pardon, un type de narration. On n'a pas besoin de voir les années qui passent ensemble parce qu'on se doute qu'ils se sont trouvés, ils sont heureux. En fait, les années passent tellement vite qu'on n'a pas besoin de voir tout ce qui s'y passe. Après, le fait que la première partie dure aussi longtemps, le fait qu'il essaye vraiment de faire la cour à Dora, de la conquérir, ça montre aussi la force de caractère, et c'est ce qui va revenir dans le film de nombreuses fois.
Et d'ailleurs, il va la suivre, enfin, il la conquérir dans une très belle scène à l'opéra. Et j'aime beaucoup cet opéra de Offenbach. Si vous voulez l'écouter, on l'écoute tout de suite. Ça s'appelle Barcarolle.
pour conclure donc sur La vie est belle, qui est un film que personnellement je trouve particulièrement beau, même s'il m'a laissé un traumatisme depuis mon enfance. Je vais parler de la scène de fin, sans vous la révéler évidemment, parce que je vous laisse regarder ce film et être attentif à cette dernière scène qui nous donne l'explication de ce titre, La vie est belle, car Josué nous fait comprendre pourquoi la vie est belle, pourquoi malgré l'horreur, il faut continuer et que après la pluie vient le beau temps, quoi. Donc même si c'est un peu léger pour parler de cette période de l'histoire, mais je vous laisse vraiment être attentif sur cette scène, vous comprendrez vraiment tout l'ampleur de ce titre.
Oui, clairement, c'est un film, faut rester accroché à la fin, parce que c'est pas facile à subir, mais c'est, comme on l'a dit, un très beau film, et un film un peu d'utilité publique, et vraiment très 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 belle ode à la joie qui nous a fait Roberto Benigni. Et d'ailleurs, il a expliqué le titre du film. Marvin, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors du coup, c'était un journaliste qui lui a demandé donc pourquoi le titre La vie est belle, alors que votre film, au final, il est quand même assez dur, ouais. Assez sombre. Il a dit en gros, mais parce que c'est une histoire dédramatisée, un film dédramatisé, parce que la vie est belle et que le germe de l'espoir se niche jusqu'à dans l'horreur. Voilà. Pour finir sur ce film-là.
C'est beau et ça résume bien et ça conclut bien sur ce film-là. Est-ce que Jade, tu as envie d'enchaîner ?
Oui, on va parler du second film. Alors ce film, c'est un peu moi qui ai insisté pour le mettre parce que je l'ai vu au collège dans mes années adolescentes et je l'ai adoré, c'est Cinéma Paradiso. Et je vous fais un petit speech après la musique, on va vous passer un thème et je pense que vous allez assez l'apprécier. On se retrouve tout de suite après sur RKS et Ciné 7. Alors, pour le topo du film, Cinéma Paradiso, ça raconte l'histoire de Salvatore et de Alfredo, qui habitent en Sicile. Et en fait, c'est l'histoire de Salvatore, qui apprend le métier de projectionniste aux côtés d'Alfredo. Et Alfredo, c'est un vieux un peu ermite, un peu bougre, qui n'a pas trop de famille. Je crois qu'il a une femme, mais c'est à peu près tout. Et il est isolé dans sa salle de projection toute la journée. Et en fait, Salvatore se prend de passion pour le cinéma. Il apprend le métier à ses côtés. Et je vais faire une belle référence. On a parlé de La La Land. J'ai insisté, j'ai dit que ce n'était pas une histoire d'amour. Cette fois-ci, c'en est une. C'est une histoire d'amour platonique, une histoire d'amitié entre Salvatore et Alfredo. Mais c'est surtout une déclaration d'amour au cinéma. Et c'est...
Et puis, il y a aussi une histoire d'amour.
Et une histoire d'amour, on va pas trop en révéler, mais oui, une histoire d'amour, une vraie de vraie cette fois. Et c'est vraiment un film que je trouve magnifique, il est très long, parfois il faut un peu s'accrocher, mais voilà, le cinéma italien au paroxysme.
Oui, mais c'est de la longueur qui passe vite, moi j'ai trouvé, enfin, vraiment j'ai été accroché. Je veux rien vous cacher, je ne savais pas du tout de quoi parler ce film. Quand je me suis embarqué dedans, un peu comme Marvin avec Hors Normes, j'y suis allé les yeux fermés. Et en fait, j'ai très vite ouvert les yeux et je les ai refermés 3 heures après, tellement le film m'a emporté. Vraiment, c'était un très très beau film. Donc, il fait un peu moins de 3 heures, je crois, 2h40, enfin en tout cas de ce que j'ai vu. Et c'était vraiment très très beau film. Sur plein de sujets différents et voilà, je l'ai pas trouvé long du tout. On va pas en parler, mais que la dernière partie j'ai trouvé un peu longue. Mais
il y a quelques longueurs, mais je sais que on l'a regardé avec Marjorie ensemble. Il y a un moment où ça a coupé en fait, où le film s'est coupé. On l'a relancé, on a vu qu'il restait 40 minutes et là c'était un moment où ça commençait à prendre un peu de longueur et on s'est dit 40 minutes et en fait finalement elles sont passées à une vitesse folle. Enfin, la fin du film, tout s'enchaîne très vite, on est tenu en haleine de A à Z et finalement on va pas passer le dernier tiers, je veux dire.
Marvin a un avis ?
Ouais, alors moi du coup j'ai vraiment adoré ce film, je pensais pas l'aimer autant parce que de base je suis pas vraiment fan du cinéma italien, mais en fait là c'est un sujet qui va beaucoup me parler, donc forcément la passion du cinéma, c'est une belle histoire d'amour, et puis il y a plein de belles références, le thème de la paternité qui revient, donc ça c'est une chose que j'aime beaucoup dans les films là, mais c'est vraiment, enfin c'est, pour moi il est vraiment magnifique, j'adore la scène d'intro, j'adore la scène de fin. Pour moi, la scène d'intro, elle est super dans le sens où, du coup, on va avoir, du coup, le... Alors, en fait, dans le film-là, il va avoir 3 Salvatore. Donc, il va avoir celui qui a environ 10 ans, un qui doit avoir, début de l'âge adulte, à peu près, peut-être une vingtaine d'années, et un qui a plus environ la cinquantaine d'années, qui revient 30 ans après, interprété, du coup, par 3 acteurs différents, dont le troisième, c'est un Français. Et du coup, en fait, on apprend que Alfredo est mort, mais en fait, on sait pas c'est qui Alfredo à ce moment-là.
Ouais.
Mais on comprend que c'est quelqu'un d'important, même s'il est pas de sa famille, parce qu'il le dit à sa compagne, il n'est pas de ma famille, Alfredo. Bah, on comprend que ça le bouleverse et on veut comprendre pourquoi. Et du coup, on est vraiment happé par cette situation-là. Et en même temps que Alfredo qui va se remémorer ses souvenirs d'Italie, et bah, nous on va le suivre dans cette histoire-là. Et c'est une magnifique histoire. Et aussi la scène de fin, mais on en parlera après, putain. Mm-hmm.
Moi, ce que j'ai apprécié dans ce film, vous m'arrêtez si je me trompe ou vous n'êtes pas d'accord, c'est la différence d'époque par la différence de jeu d'acteur. Au début, on est vraiment dans la vieille époque, le jeu d'acteur est très forcé, des grosses mimiques pour faire vraiment rire un peu lourdement. Et à la fin, trentaine d'années plus tard, voire 50 ans plus tard, on est vraiment sur un jeu d'acteur plus léger, plus en subtilité, avec beaucoup de finesse, je trouve.
Alors pour moi, ça va être par rapport en fait justement l'évolution de Salvatore. En fait, quand il est jeune, on va dire, il est un peu insouciant. Il est souvent, il fait un peu, il fait toujours des conneries. Il en fait plein à sa mère. Il fait des farces.
Et puis au départ, il se passionne pour le cinéma parce que c'est la seule attraction du village, parce qu'il vit dans un petit village en Sicile.
Il n'y a que l'église et le cinéma.
Voilà. Et que il est enfant de cœur. Il va tout le temps au cinéma parce qu'il va pas beaucoup à l'école. En fait, il est là le point de départ. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, n'allez pas à l'école. Surtout, n'écoutez pas ce que je viens de dire. Mais effectivement, et c'est pour ça qu'il se passionne par le cinéma. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il fait un peu plein de bêtises.
Voilà, mais du coup, plus on avance dans sa chronologie, et plus en fait, du coup, le personnage va prendre de la maturité, et forcément, son jeu va être beaucoup plus mature. Enfin, en fait, pour moi, les trois sont très bons. Ils sont super attachants, les trois. Mm-hmm. J'ai une préférence quand même pour le petit, qui est bourré d'humanité, même si les deux autres sont super, même. Voilà, par rapport à tout ce film-là, celui qui m'a vraiment bouleversé, c'est du coup Philippe Noiret, donc celui qui interprète Alfredo, qui est aussi un acteur français, qu'on a pu voir dans Le Ripoux ou Le Facteur, je crois. Ouais, dans ces films-là. Et en fait, parce que c'est un film italien, franco-italien, C'était beaucoup à cette époque-là, c'était assez répandu. D'ailleurs, La vie est belle, c'est aussi un film franco-italien à ce moment-là. Oui. En fait, ils s'échangeaient un peu les acteurs italiens et français. Et ce qui était important à savoir, c'est que ils étaient tournés dans les deux langues, en fait. Il y avait du coup une partie, enfin, les acteurs français jouaient en français, et après en post-prod, avec des traducteurs et tout, ils faisaient du coup le doublage italien. Et donc c'est pour ça que moi je l'ai vu personnellement en français. Donc du coup forcément la voix de Philippe Noiret est beaucoup plus, on va dire, authentique et sincère que la voix de tous les autres acteurs dans ce film-là, parce que c'est du doublage du coup fait en post-prod.
Mm-hmm. Oui, tu parlais de La vie est belle, par exemple, Benigni, qu'on retrouve souvent dans d'autres films, notamment dans Astérix contre César, ou qu'on retrouve actuellement sur Amazon Prime, si ça vous intéresse, dans un remake de Pinocchio. Mais effectivement, ça se fait beaucoup. De toute façon, la France et l'Italie sont très très proches. Hein,
de vieux amis.
Voilà, c'est ça. Depuis Marignan, on va dire qu'on est de vieux amis. Bref. Oui, effectivement, un film très humain. Et par contre, l'évolution du jeu d'acteur, alors moi, je ne l'avais pas spécialement remarqué, mais c'est possible que ce soit aussi une référence au cinéma, parce que quand on pense peut-être très vieux films, on pense un peu des films un peu burlesques avec des gros traits, et une évolution dans le jeu, dans le développement des histoires, dans la narration, et peut-être que tout ça sous-tend un peu voilà, cette évolution-là.
Bah là, t'as tout à fait raison, dans le sens où plus on avance dans le temps et plus en fait le village va se transformer. On va avoir une première partie avec du coup l'église et le cinéma, et par exemple à la fin du film, déjà le cinéma il est, on va dire, abandonné depuis 5-6 ans je crois, et tout le petit village a été transformé en un énorme parking avec plein de publicités de partout. Donc et même à ce moment là ils nous disent que le cinéma il marche plus, parce que maintenant il y a les cassettes, il y a les DVD, enfin pas les DVD je crois, pas à cette époque là mais les cassettes et la télé, en fait. Ouais. Donc, du coup tous les films sont distribués à télé, et en fait c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les services VOD, Netflix, Amazon et tout le tralala. Le cinéma est en train de mourir actuellement, surtout avec la période qui veut que les cinémas sont fermés. Ouais. Et ça pour moi c'est intemporel dans ce sens là où ça n'a pas changé, et ça montre que voilà, le cinéma est super important, parce que le village, enfin à chaque fois dans toutes les scènes, le village, enfin le cinéma est blindé. Mm-hmm. Il est blindé au max. Il y en a il peut même plus s'asseoir à tel point, surtout à partir du moment où parce que l'église, au début l'église contrôle le cinéma.
Ouais.
Et l'église censure les scènes de baisers
que le prêtre caractérise de scènes pornographiques.
Voilà, là aussi le prêtre, il y a une évolution dans les termes. Il demande à Alfredo à couper lors du montage, alors je sais plus comment ça s'appelle, les pellicules.
Oui, c'est
il va, voilà, il va, ouais, il va les cutter, les pellicules, pour en fait cutter, sauf que c'est pas le bon truc quoi. Enfin, si le réalisateur veut montrer un film, faut le prendre tel qu'il est, faut accepter son œuvre telle qu'elle est. Et pour moi, du coup, à partir du moment où le cinéma, on va dire, est racheté par quelqu'un, là, on va avoir vraiment tous les habitants qui vont être à fond sur le cinéma et qui vont être totalement en osmose devant les films.
Moi, j'ai trouvé que le film aussi était très fort par rapport à pas la reconstitution, mais au fait de nous faire voir une époque et un pays. C'est comme dans La vie est belle, on a l'impression d'être en Italie, quoi. On est dans un petit village, on a les habitués du quartier, au bout d'un moment on connaît tout le monde en fait, et j'ai trouvé que c'était assez bien fait, bien montré. Pareil, tu parles, Marvin, des films qui sont coupés, on sait que l'Italie est très puritaine, ça ils le retranscrivent, c'est un pays très croyant, c'est pour ça que l'église, ça fait partie de la communauté, c'est un indispensable. Et sinon... plus par rapport au cinéma, c'est vrai que le cinéma italien, ça fait quand même... là, ça va mieux, mais il a traversé des grosses crises. Mm-hmm. C'est un cinéma qui a été très populaire avec les western spaghetti, qui a pris beaucoup d'ampleur à l'international. Et finalement, jusqu'à relativement récemment, où il y a beaucoup de films qui ont relancé, c'est pas forcément le cinéma qui était le plus mis en avant. Et ça s'est vraiment fait sentir dans le pays, avec beaucoup de cinémas qui ont fermé. Et de manière générale, une industrie qui a pas... enfin, qui a eu des années un peu difficiles... malgré Cinecittà, malgré le fait que ce soit un pays iconique du cinéma.
C'est sûr. Tu parlais de Western Spaghetti, ça fait une bonne transition avec la musique, parce que c'est Ennio Morricone qui a composé...
on l'a pas précisé.
Ouais, ouais. Qui a composé quasiment toutes les musiques du film.
Ah, tous.
Ouais.
Tous.
Donc,
c'est que des thèmes, de toute façon.
Voilà, on le connaît. Enfin, déjà, on le salue là où il est, parce qu'il est parti cette année. Mais on le connaît surtout pour les musiques de western, et surtout les western spaghetti avec Sergio Leone. Et là, on le retrouve dans un tout autre registre.
Dans un autre registre, et il le fait très bien. Est-ce qu'on n'écouterait pas le deuxième thème, qui est à mes yeux le plus beau du film ?
Le thème de l'amour.
Le thème de l'amour. Et bien, si vous voulez, à l'unanimité, on écoute Love Theme, composé par Ennio Morricone.
Thank you.
Donc pour continuer sur le merveilleux Cinema Paradiso, on va vous parler un peu plus de ce qui se passe pour ce fameux lieu de culture, le cinéma. Il y a un terrible incendie qui fait quelques ravages et qui va impliquer un peu Alfredo et qui va faire un peu tout le reste de l'histoire et qui va notamment amplifier cette relation avec Toto.
Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant cet incendie entre Toto et Alfredo ? Dis-nous tout, Marjorie. Il lui sauve la vie ?
Oui, il lui sauve la vie.
Je l'ai prise par surprise.
Non, déjà, pourquoi il y a un incendie déjà ? On va commencer par l'isomie du village déjà. Pourquoi un incendie ?
Parce que la pellicule qui tombe.
Voilà. Mais ça montre bien qu'à l'époque, projectionniste de films, pardon, c'était hyper compliqué. D'ailleurs, maintenant, heureusement, les pellicules ont été changées. Maintenant, ils sont inflammables. Ça, ils le montrent dans le film.
Maintenant, c'est surtout du numérique.
Ouais, mais les anciens cinémas.
Ouais.
Quand c'est, enfin, vraiment ceux qui font à l'époque, c'était pas facile. Et là, il y a eu une erreur en fait de Alfredo qui fait que du coup, il va avoir une pellicule qui va s'enflammer et du coup, un incendie qui va se propager et qui va être inarrêtable. Et à ce moment-là, du coup, Alfredo va perdre la vue, quoi.
Sachant que Alfredo était quand même averti sur ces risques-là parce que quelques minutes avant, on a quand même une scène similaire chez Toto. Où il a failli perdre sa petite sœur dû à un incendie, des pellicules qui tournaient trop dans le vide, quoi.
Mmh. Oui, ils le savent, hein, c'est son métier, mais il le sait que c'est inflammable et qu'il faut faire attention. Mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'il y a du coup une corrélation entre cet événement-là et le nom, et le prénom du personnage. Et je sais que c'est Marjorie qui nous l'a fait remarquer, donc elle a très envie de nous en parler.
Oui, parce qu'en fait, tout le long du film, Toto. Dit Salvatore de son nom entier. On n'a pas vraiment le nom-prénom à la suite tout le temps, c'est plutôt Toto di Vita, Vita Salvatore. Et vraiment, c'est sur les scènes finales qu'on apprend que Toto est en fait Salvatore di Vita, qui veut dire littéralement sauveur de vie. Et c'est là où le film prend vraiment tout son sens, parce qu'il a sauvé la vie, on peut dire, de plusieurs personnages dans le film, et notamment celle d'Alfredo, puisque c'est là où commence vraiment leur communion, quoi.
Exact. Et pour revenir un peu sur le cinéma, j'ai trouvé une autre référence au cinéma et au grand cinéma. C'est que la salle de projection, enfin, il y a toujours un trou dans lequel passe le faisceau lumineux pour pouvoir aller sur l'écran blanc. Et là, ce trou est à l'intérieur d'une gueule de lion. Et un lion rugissant, on pense tous au fameux générique de la MGM. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Je sais pas si c'est fait exprès, mais moi j'ai trouvé ça.
Je l'ai pas vu, mais bien vu.
J'ai trouvé ça.
Bien
ça doit être fait exprès, puisqu'il y a un moment quand même où Toto, quand il est petit, il a une hallucination et il tourne la tête et on voit le lion qui rugit. Ce qui fait quand même écho.
Ouais, c'est vrai, ouais. Exact. Oui, parce qu'il est en train de rêver.
Sinon, pourquoi est-ce qu'on disait que c'est une déclaration d'amour au cinéma ? Parce qu'il y a quand même énormément de références dans ce film, que ce soit des références citées ou des références d'extraits qu'on projette dans le cinéma. On a par exemple Les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin, on a également Les Temps Modernes, on a Blanche-Neige et Les Sept Nains, Autant en emporte le vent, Casablanca. Et Casablanca, pourquoi on en parle ? Pour le baiser. Et le baiser, on en a déjà parlé, c'est un sujet fâcheux du cinéma dans le cinéma Paradiso. Puisque le prêtre coupe toutes les scènes qui sont un peu tendancieuses. Mais il y a un moment quand même à la fin, la plus belle image du film, l'image sur laquelle se termine le film, où Alfredo, en fait, juste avant de mourir, avait laissé...
Alors attention, pour ceux qui n'ont pas vu le film...
Je vais essayer de ne pas trop spoil.
Attention.
Après, c'est pas vraiment un spoil. Bon.
Ouais, donc, mais Alfredo avait
c'est
laissé...
quand même mieux si on le découvre.
Oui,
avait laissé une bobine à Salvatore. Et en fait, il avait monté toutes les séquences que lui a coupées au fil des années, qui étaient interdites dans le cinéma. Et on a une scène magnifique où Salvatore découvre ces images. Donc, vous avez une idée du genre d'image, hein, rien de trop poussé, mais voilà, de jolies scènes d'amour. Et voilà, ça se finit sur cette belle déclaration d'amour au cinéma et d'amour littéral.
Ouais, c'est une scène assez enivrante. Comme je disais à Jade lorsqu'on a visionné le film ensemble, on n'a pas demandé grand-chose à l'acteur à ce moment-là parce qu'il est assis sur un siège en train de regarder des scènes. Mais en fait, son regard, son naturel, sa simplicité, le fait qu'il passe par toutes les émotions, ça renforce vraiment cette scène et ça lui donne quelque chose vraiment d'attrayant. Et elle est très très belle pour clôturer ce film.
Cette scène-là, en fait, il y a la déclaration du coup d'amour au cinéma, mais il y a aussi une déclaration de Alfredo envers Toto, dans le sens où En fait, dans ce film-là, c'est très suggéré qu'en fait, bah, Toto, en fait, il a perdu son père pendant la guerre. Et donc, Alfredo devient typiquement son père de substitution. Et à ce moment-là, quand il va lui passer la bobine avec tous les plus beaux baisers du cinéma, il va en fait lui transmettre sa passion, comme un père ferait ça avec son fils. Donc, pour moi, c'est un peu même. C'est un dernier au revoir, c'est un dernier je t'aime à un peu à le fils qu'il aurait toujours voulu avoir. Et que d'ailleurs, tout le long du film, il essaye un peu de le repousser, et au bout d'un moment, en fait, il est tellement pris d'amour pour lui et de compassion par rapport à son père, à sa mère, qui ne comprennent pas forcément sa passion pour le cinéma, alors que lui, c'est aussi sa passion. Bah, à ce moment-là, il y a une amitié très forte, et plus qu'une amitié, au bout d'un moment, après, c'est carrément sa famille, quoi.
Et je pense que c'est également d'Alfredo à Salvatore un passage à la maturité, en fait, parce qu'on sait que Salvatore, il n'a jamais réussi à fonder une famille, à avoir une relation stable. Il est toujours un peu resté dans le passé avec sa relation avec Elena qui n'avait pas abouti à grand-chose. Il n'arrive pas, en fait, à passer à autre chose. Au niveau du travail, c'est un cinéaste accompli. Sur le plan personnel, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, je pense que le fait de montrer ces images, c'est un peu une validation d'Alfredo, de lui dire « Je t'ai connu petit, maintenant t'as grandi, t'as le droit à ça et t'as le droit de fonder une famille, de voir d'autres choses, en fait, de faire ta vie. »
Oui, et puis à la fin du film, il y a aussi ce thème-là qui revient quand il retourne en Sicile, de savoir quoi privilégier, est-ce que c'est la carrière professionnelle ou la carrière personnelle et le développement personnel. Et bon, voilà, à la fin du film, on apprend que Salvatore a choisi la carrière professionnelle. Et il y a cette dichotomie-là qu'on peut retrouver dans la vie un peu de tout le monde, de savoir qu'est-ce qu'on privilégie, la famille ou l'argent.
Mais Alfredo l'avait prévenu, puisque quand Toto est petit dans la cabine, il lui dit « Ne fais pas ce métier, c'est pas un bon métier, tu seras seul toute ta vie. »
Sachant que oui, au début, il l'en empêche, il lui dit « Reste pas dans cette cabine, t'as d'autres choses à faire, tu vas souffrir de ce métier. » Et puis finalement, c'est lui qui le pousse à partir coûte que coûte à Rome pour suivre ses études. Et c'est aussi un peu grâce à Alfredo que Toto fait cette très grande carrière. Et il a même interdit à Toto de revenir le voir tant qu'il ne s'était pas accompli professionnellement. Bah, ouais. Et la dernière fois, il le voit, c'est dans son cercueil, malheureusement.
Le seul regret, on va dire, qu'Alfredo pourrait avoir, c'est le fait d'avoir menti pour son bien à Toto sur le sort de Elena et de Toto, qui à ce moment-là vivent l'amour parfait, mais malheureusement, Elena doit partir parce que ses parents, je crois, ils déménagent ou quelque chose comme ça. Mmh. Et elle décide quand même de revenir pour lui adresser une dernière parole, chose que Alfredo lui dit « c'est mieux que tu l'oublies ». Parce que pour vous deux, c'est mieux. On comprend plus tard dans le film pourquoi il aurait pris cette décision-là, et on la comprend tout à fait. Mais du coup, Elena veut quand même, parce qu'elle sent qu'Alfredo, il ne va pas lui dire de toute façon, donc elle préfère lui mettre un petit mot. Et en fait, dans la colère, Toto n'a jamais remarqué ce mot, et en fait, il est plein de regrets dans le sens où il aurait pu suivre Elena, qui lui adressait une belle déclaration d'amour, et malheureusement, il ne l'a jamais vue. Et il a toujours été en colère contre elle toute sa vie parce qu'il pensait qu'il l'avait abandonnée et qu'en fait, il s'aimait follement, quoi.
Oui, un gros quiproquo sur cette histoire d'amour qui s'est un peu...
Il y a un gros quiproquo.
Qui est un peu morte étouffée, quoi. Mais après, Alfredo l'avait annoncé très vite. Fais gaffe à celle aux yeux bleus, ce sont les pires.
Oui, c'est vrai. Donc, pour conclure, un très, très beau film sur le cinéma. Une histoire d'amour à trois versions, trois dimensions. Et vraiment, un des plus beaux films de cette sélection, pour moi, c'est mon préféré.
Un film, en fait, je trouve touchant par sa simplicité. Il n'essaye pas de s'attaquer à des énormes sujets. La guerre est suggérée, mais on n'en parle pas plus que ça. C'est vraiment l'histoire d'un enfant, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, des personnes qui l'ont aidé à se construire et de la personne qui l'est devenue, en fait.
Ouais, c'est encore une fois un film très, très humain. Et puis voilà. Donc
pour une personne qui est fan de cinéma, c'est super important de voir ce film une fois dans sa vie. Ouais. Juste pour comprendre déjà le métier de projectionniste et de voir comment se passe, on va dire, les dessous du cinéma.
Exactement. Et on va pouvoir passer au troisième film d'aujourd'hui.
Un film humaniste, mais pas de la même façon.
Voilà, c'est un film qui nous a un peu moins mitigé. Ouais, bon, vous comprendrez.
On en perd nos mots.
C'est un peu compliqué d'en parler. Mais on va commencer avec une très bonne chanson. Là, on va pouvoir danser. C'est une chanson un peu discothèque. Vous allez voir. Et on se retrouve tout de suite sur RKS. We'll be right back.
Et donc on se retrouve pour le film le plus récent de notre sélection, puisqu'il est sorti en 2013, La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, qui parle un peu de la mondanité romaine et de ses déboires.
Mais qui parle de pas grand-chose.
Alors, bon,
c'est vite dit, ça, quand même, c'est vite dit, il y a des choses à en tirer.
Ça reste un film quand même qui a été oscarisé. Bon, oui. Il y a quand même des choses à dire, c'est pas non plus deux heures de vide. Il faut aller voir un peu plus loin que les images, mais
faut
on va
gratter,
en parler.
Faut trouver le sens.
Bon, on va dire avant toute chose, déjà, on a trois films avec trois décennies différentes, donc années 80, années 90 et début 2010. Du coup, on a une évolution dans le cinéma italien, en plus ou moins bien.
Ouais,
celui-là, on va dire, c'est le moins bon. Enfin, en tout cas, je pense que pour moi, en tout cas, c'est le moins bon.
On spoil le top de Marvin, là, déjà.
Non, mais en fait, il est long pour pas grand-chose. Ouais. Il raconte très peu de choses qu'on aurait pu construire en 1h40, 1h50, pas plus.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un peu long.
Il y a un peu du cinéma expérimental.
Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui sont. Enfin, moi, je trouve, par exemple, il y a de la nudité gratuite qui apporte rien à l'histoire.
Bon, je crois qu'on va prendre le relais là.
Ouais, parce que. Si, mais ça fait référence un peu aux sculptures italiennes et tout.
Ouais.
Je pense.
Bon, qui commence, Marjorie ?
Allez, on est un peu dans les dérives du paraître avec ce film. Enfin, comme j'ai pu en discuter un peu avec Jade auparavant, c'est un film, moi, qui m'a un peu heurté sur le fait que pour moi, Rome, c'est l'image même de la Dolce Vita. On se laisse porter par les rues pour aller manger une glace, pour voir certains des plus beaux monuments du monde. Et là, en fait, on plonge dans un Rome assez sordide entre drogue, alcool et sexe. Et c'est une image que je n'avais pas de cette ville pourtant.
En fait, on nous dit à un moment dans le film que Rome appartient aux touristes, ce qui est assez vrai, parce que c'est une des villes sûrement les plus fréquentées au monde. Et là, on nous fait voir un peu le Rome underground, entre guillemets, le Rome de la haute société. Et il y a un contraste entre la grande bellezza, donc la grande beauté, ce qu'on veut nous montrer de la ville, et finalement ce qui se passe dans les cercles mondains. Parce que là, c'est tout sauf beau. C'est des histoires de drogue, de chirurgie, de sexe, de fric, c'est de ça. Magouille. Et on a donc... toute cette société, ce petit noyau-là, qui ils se font des petites bouffes entre eux, chacun mène sa vie, et finalement, ils n'ont pas grand-chose à se raconter, quoi. Parce qu'ils sont tous fascinés par leur image, fascinés par leur carrière, et finalement, ils en ont un peu rien à cirer de ce qui se passe autour d'eux. Et il y a plusieurs scènes dans le film où on se rend compte que le personnage principal, pour tout vous dire, j'ai oublié son nom, je l'ai sous les yeux, Jep. Ce personnage-là, il évolue un peu dans différents cercles, on le voit évoluer dans la ville. Il a écrit un livre qui lui a apporté une certaine célébrité.
Reconnaissance.
Et depuis, il ne fait pas grand-chose, quoi. Donc ce personnage, il se repose un peu sur ses acquis, il vit sa vie, mais finalement, c'est quelqu'un de relativement creux. Il a la critique facile. Il y a des scènes où... Alors franchement...
Il aime bien critiquer ses collègues de cercle mondain. Ouais.
J'aurais pas aimé être son interlocutrice parce qu'il en beurre une belle. Et...
quelle expression.
Celle-là, même Marie ne l'avait pas sentie.
Mais voilà, en fait, il y a des moments où on a l'impression qu'il va se raccrocher à quelqu'un, qu'il va avoir quelque chose de sincère, et finalement, même ça, il n'arrive pas à le faire, parce que c'est quelqu'un qui n'a finalement rien à offrir.
Oui, c'est ça, c'est que ce film nous montre un peu que tout est éphémère dans ce monde-là, que pour moi, la morale de l'histoire est que l'argent ne fait pas le bonheur. Puisque Jep, il a beau essayer de s'accrocher à des sentiments, tout s'évapore en un claquement de doigts, tel que sa relation avec la fameuse Ramona.
Tu veux pas de jeu de mots sur son prénom.
Tu es le seul à y avoir pensé.
Après, on va découvrir un monde qui est très encadré, parce qu'il y a plein de règles. Par exemple, on peut se référer à la scène de l'enterrement où Jep va poser les règles des choses qu'il y a à faire et ne pas faire à un enterrement.
Qu'il respecte plus ou moins
d'ailleurs. Mais en même temps, on ne peut pas le critiquer sur ça. Mais c'est un monde très encadré, autant qu'il est borderline. Parce que le sexe, l'alcool, la drogue, les fêtes à gogo, c'est être outre limite, puisque ce sont des choses pour la plupart interdites. Et tout est éphémère, même les relations amicales, puisque notamment cette scène de l'enterrement où tout le monde est présent. Il y a énormément de monde dans l'église, mais au moment où on appelle les amis, personne ne se lève avant de longues minutes. Donc on voit que c'est des relations plus ou moins intéressées puisque tout le monde y trouve son compte dedans.
Et par rapport à Ramona, du coup, c'est la fille d'un ami de Jep. On nous la présente dans un contexte un peu dans le monde de la nuit. C'est une relation finalement qu'on nous montre sous un angle un peu tabou parce qu'il commence à se rapprocher, mais ça reste quand même la fille d'un ami. Finalement, elle est un peu méfiante parce que travaillant dans le monde de la nuit, elle se méfie des personnes qui veulent l'approcher pour les mauvaises raisons. Finalement, Jep arrive un peu à se faire sa place à ses côtés. Et ce qui se passe, c'est qu'on les voit tisser un lien. Et du jour au lendemain, en 2 minutes top chrono, c'est bouclé, Ramona meurt, on n'en entend plus parler. Et avec Marjorie, on s'est dit, on nous montre un personnage, on s'y attache, on nous le présente un petit peu. Et finalement, plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même Jep, il passe à autre chose très rapidement. C'était quelqu'un, on pensait qu'il pouvait s'y attacher, mais finalement, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, il va retomber dans ses travers, il va retomber dans la drogue, le fric, l'alcool, et voilà, dans 3 jours, il aura oublié. Et finalement, c'est ce cercle... j'ai plus le mot. Pas cercle vertueux, l'inverse.
Vicieux.
Vicieux. C'est ce cercle vicieux qui se répète sans cesse et qui fait que il n'arrivera jamais à rien construire et il n'arrivera jamais à avoir quelque chose de beau.
Alors que c'est ce qu'il cherche. Il cherche la grande beauté.
De base, oui, il cherche la grandeur.
Il cherche aussi à savoir qui il est. Dans le aussi. Sens où il y a la scène où il y a une petite fille qui lui dit qui je suis, et elle dit tu es personne, un truc comme ça.
Oui.
Donc ce moment-là, il y a une recherche d'identité déjà. On se demande qui il est parce que même lui, en fait, il ne sait pas. À part l'argent et les fêtes, il a pas vraiment de famille, il ne sait pas vraiment à qui se confier. Mmh. À part peut-être ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Comment on appelle ça, un peu ça, pas femme de ménage, je sais plus comment on appelle ça.
Oui, c'est ça. Bonne.
Sa domestique.
Ouais, sa domestique plutôt. Voilà, sa domestique qui est hyper marrante quoi. Il se lance des petites vannes et tout. J'ai beaucoup aimé. Dans le sens où il la prend vraiment comme pas un membre de sa famille, mais en tout cas il la prend pas pour n'importe qui.
Ouais, comme une amie.
Ouais, comme une amie en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et c'est super marrant comme relation.
Après voilà, là on vous parle du film, on le décrypte un peu. Il faut avouer que si vous allez voir ce film sans en avoir entendu parler et que vous avez 3 heures de vie mondaine, de gens qui se tirent la bourre et qui s'en mettent plein la gueule, il faut aller chercher un peu plus loin parce que de prime abord, c'est pas forcément un film très engageant.
Et le synopsis est un peu trompeur parce que quand on lit, on s'attend vraiment à se balader dans les rues de Rome, à découvrir les monuments et on en voit un, voire deux.
Ouais.
Et en fait, c'est juste.
On le fait, mais au lieu de se balader dans les rues de Rome, on se balade dans des palais, dans des boîtes de nuit. Et finalement, les sculptures et les monuments, c'est les piliers de ce monde de la nuit.
Il y a quand même des très belles scènes sur Rome.
Ouais, sur le parc.
Sur son appartement qu'a vu sur le Colisée. C'est super beau. Et même quand il se balade dans les petites rues, il y a des petites sculptures. Ouais. Et même des bâtiments un peu typiques romains. Et c'est super beau, quoi. C'est pour les gens qui n'ont jamais vu Rome. On va dire à travers ses vrais yeux. Là, on va dire, on va avoir du coup une belle retranscription de Rome, quoi.
Mmh. Ouais, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça à voir à Rome.
C'est vrai. Là, Marjo a raison. Mais pour moi, c'est un des seuls avantages du film, c'est que il y a une très belle photographie et il y a de très beaux décors.
Ah, visuellement, c'est très beau.
Ouais,
très très beau.
Mais c'est une très belle ville et surtout qu'elle commence par un plan sur un touriste chinois. Qui est frappé par un syndrome de Stendhal. Donc, syndrome de Stendhal, c'est en fait le fait d'être confronté à des choses tellement belles qu'en fait, on est submergé par l'émotion. Et cet homme-là, il meurt instantanément. Alors, c'est pas crise cardiaque, voilà. C'est pas ce qui lui arrive. Mais ça contribue à nous faire rentrer dans le film en nous disant, regardez comme la ville est belle. Il y a même cet homme-là, regardez, il est mort.
Ouais. Le syndrome de Stendhal, pour la petite anecdote, qui a été représenté dans une fresque rue Vénitieux, à Grenoble, la première fresque faite dans le cadre du festival de street art représente le syndrome de Stendhal.
Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner dessus parce que c'est très intéressant comme syndrome. Et souvent, c'est associé à l'Italie, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le syndrome de Stendhal, ça vient de Florence.
C'est ça. En fait, c'est quand Stendhal est allé visiter Florence qu'il a décrit ce syndrome-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle syndrome de Stendhal ou syndrome de Florence. Et en fait, l'artiste qui a fait la fresque à Grenoble était italien. Et quand il est venu à Grenoble, il a dit qu'est-ce que je peux faire en lien avec Grenoble. Il a pensé Stendhal, il a pensé Italie, donc il a pensé syndrome de Stendhal. Voilà, est-ce que ce serait pas l'heure du top de Marvin?
Si, alors on va commencer par Kellyanne, vas-y, ton petit top.
C'est compliqué de choisir les deux premiers. Le dernier, on le sait très bien, c'est la
grande. On est toujours d'accord sur le dernier.
Bah ouais, on est d'accord sur le premier, mais en même temps, quand on choisit des films aussi barbants que Midsommar, on peut pas le mettre en tout. Bref.
Je quitte la radio.
Je mettrai pour moi Cinéma Paradiso, La vie est belle et La Grande Bellezza.
Moi, ça va être comme toi, du coup, le Cinéma Paradiso, La vie est belle et La Grande Bellezza.
J'ai un avis.
Pour changer, je vais faire le même top que vous. Exactement le même top. Mais avec quand même Cinéma Paradiso très loin devant pour moi.
Moi aussi, ouais, clairement. Il était top ce film. Vraiment une pépite. Quoi.
Moi,
une
c'est
pépite.
Mitigé entre les deux. Et Marjo.
Et moi je suis désolée, je vais aller à contre-courant puisque je vais placer La vie est belle en, en première position. Voilà. Et après, Cinema Paradiso forcément et La Grande Bellezza pour clôturer.
Dans l'ensemble, on a à peu près les mêmes.
D'accord.
À un avis près, on va dire. Même en plus, le troisième, du coup, on est tous d'accord pour que ce soit le moins bien. Je trouve ça va pour une fois, on s'en sort bien.
C'est une question de sensibilité.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bah, après, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord. D'ailleurs, si vous voulez nous partager vos tops, on les lira avec grand intérêt. Si vous voulez aussi les justifier, c'est sans problème. On lira tout ça et on en parlera ensemble. La semaine prochaine, un épisode un peu spécial, il me semble, Marvin.
Bah, ça va être un hors-série sur les séries, donc c'est bien trouvé.
Ouais.
Ça va être sur un peu nos séries préférées, nos séries coup de cœur.
Ouais, c'est
voilà, trois voire quatre séries. À découvrir avec ça. Voilà, peut-être un invité surprise, mais pour moi, on part du postulat qu'il y aura trois séries à découvrir. On les dévoile pas. Ouais, de toute façon,
mais de toute façon, au générique, vous saurez déjà.
Voilà, mais de toute façon, vous n'aurez pas le temps de regarder les trois donc, en une semaine. Donc,
Ok, exactement. Le principe.
Oh, écoutez, j'ai envie de vous dire que moi, la série que je vais vous présenter, je l'ai regardée en une semaine de confinement, donc bon, c'est faisable.
C'est faisable.
Si vous n'avez pas de vie, c'est faisable.
Il y en a au moins. Parmi les trois, il y en a au moins une ou deux que vraiment. Si vous êtes un peu adepte des séries, ouais, forcément vous avez déjà entendu parler ou déjà vu.
Clairement. Donc le principe, ce sera ça. Chacun vient avec sa série et va donner envie aux autres de la présenter et de la regarder. Enfin, il va la présenter aux autres pour leur donner envie de la regarder.
Chacun va essayer de donner envie, comme j'ai essayé avec Eliane et Midsommar, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, certaines personnes n'ont pas de goût et c'est pas grave. Ouais. On t'accepte quand même.
Non, ou certaines personnes justement ont du goût pour ne pas apprécier Midsommar. Enfin, nous allons pas revenir sur les débats que nous avons eus dans l'épisode sur ton anniversaire que vous pouvez retrouver en podcast comme l'émission que vous venez d'écouter et toutes les autres émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de la radio, radio-rks.fr ou sur l'application de la radio, toujours radio-rks.fr. Vous pouvez aussi retrouver comme chaque semaine la playlist de l'émission et des émissions précédentes sur la chaîne YouTube radio-rks.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver toutes les musiques qui sont passées, plus quelques inédits, quelques bonus. Et comme chaque semaine, vous pouvez nous rejoindre sur la page Instagram de Ciné7,
qui est Ciné7-RKS.
Voilà, pour avoir un résumé de toutes les dernières émissions.
Des petits sondages,
des actus. Pour voir nos têtes, effectivement, si vous êtes curieux de voir à quoi on ressemble, ce sera là-dessus. Et puis, on va pouvoir se quitter là-dessus à la semaine prochaine. J'espère que vous passerez une très bonne semaine. Et on se retrouve, comme chaque dimanche, à 19h. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Bonne soirée.
À bientôt.